Voilà, la question la plus importante que nous pouvons poser, c'est qui est Jésus-Christ? Et c'est une question qui est pertinente pour tout le monde parce que même votre éternité dépend sur la réponse. Et je me demande, combien de gens dans le monde sont en train même de chercher une réponse à cette question? Combien de gens ont mis dans leur recherche Google qui est Jésus? Est-ce que vous savez qu'il y a environ 63 000 recherches sur Google chaque seconde? Cela représente environ 5,6 milliards de recherches chaque jour. J'avais vu en 2019, au commencement de l'année 2019, quelqu'un a fait une recherche concernant les top 3 questions concernant la théologie. Est-ce que vous savez les 3 top questions? Le premier, c'était qu'est-ce que l'amour? Et c'était en anglais que cette étude était faite. Je me demande combien de Français ont aussi demandé la même chose, ceux qui parlent français. Mais en anglais, what is love? Et imaginez, 3 350 000 personnes chaque mois au commencement de l'année 2019 ont posé la question. Deuxième plus haute question, c'était qu'est-ce que la Bible? 1 830 000 par mois en moyenne ont posé cette question. Et la troisième plus haute question par rapport au sondage, c'était qui est Jésus? Et c'est là, 1 500 000 personnes chaque mois ont posé cette question. C'est intéressant, n'est-ce pas? Les gens sont curieux. Ils sont curieux parce qu'ils ont déjà entendu parler de Jésus. Ou peut-être ils ont vu une chrétienne d'une manière ou l'autre parle de Jésus. Et ils ont voulu savoir alors qui est ce Jésus. Et je me demande combien de personnes, même ce matin, sont en train de vouloir trouver la réponse à cette question. Et combien de gens, peut-être, ils sont même en train d'ouvrir l'Évangile selon Marc pour voir la réponse à cette question. Nous avons remarqué que Marc, il est direct. Au premier verset, il nous dit, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et le reste de son Évangile est là pour établir la fondation pour répondre à cette question. Marc nous montre les enseignements de Jésus, ses miracles, sa compassion, son humanité, sa divinité, tout au long de son évangile. Marc est en train aussi de montrer les réactions des gens face à ce Jésus-Christ. Nous avons déjà remarqué dans le chapitre 1, ceux qui étaient dans la synagogue de Capernaum, ils étaient frappés de sa doctrine, car Jésus enseignait comme ayant autorité. Plus tard, dans la même synagogue, ils étaient saisis de stupéfaction, car il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. C'était dans le chapitre 1, verset 27. Dans le chapitre 1, verset 34, toute la ville de Capernaum était rassemblée devant sa porte pour être guéri. Zacharie nous a montré dans son message sur la guérison d'une lèpre que tout le monde cherchait Jésus, au point où Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. La semaine passée, Alain a partagé l'histoire de la guérison d'une paralytique. Toujours à Capernaum, les scribes disaient qu'il blasphème parce qu'il a dit au paralytique que ses péchés sont pardonnés. Ensuite, pour montrer qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés, Jésus a dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà les réactions des gens face à ce Jésus et face à ce qu'il a fait. Nous avons vu aussi dans le chapitre 1, Simon-Pierre et André, son frère, laissèrent le filet et le suivre. Et pas seulement eux, mais aussi Jacques et Jean, son frère. ont fait la même chose. Ils ont laissé leur père Zébédie dans la barque avec les ouvriers pour suivre Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir un autre homme qui a laissé tout pour suivre Jésus. Mais cet homme n'était pas comme les autres qui ont suivi Jésus. Les autres que nous avons vus, ils étaient en train de gagner honnêtement leur vie. Et ils étaient des pêcheurs, ils étaient en train de pêcher dans la ville et ils étaient tout simplement en train de vouloir honnêtement gagner leur vie. Mais ici, Jésus est en train et il va appeler un homme qui était un homme qui n'est pas en train vraiment de gagner sa vie honnêtement. C'était un péageur, un publicain. C'était Lévi, ou nous voyons, c'est Matthieu, c'est un autre nom pour celui-là, un collecteur des impôts, un homme qui était tenté de bien de façon à gagner sa vie de façon injuste. Ce matin, nous allons regarder cet appel de Lévi et nous allons remarquer deux réactions différentes. Un, la réaction de Lévi, c'était pour Jésus, il a laissé tout. Mais les leaders religieux, nous voyons une autre réaction, une réponse différente. Ils questionnent même comment Jésus peut manger avec un tel homme et avec les autres gens qui se disent pécheurs. Le plan pour notre message ce matin, c'est simple. Jésus, le chercheur de pécheurs. Deuxièmement, Jésus à table avec les pécheurs. Et troisièmement, Jésus, le sauveur des pécheurs. Commençons avec verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Vous vous souvenez, Jésus ne pouvait plus maintenant aller de ville en ville. Il devrait aller dans les lieux déserts et maintenant il est là à côté de la mer de Galilée. La mer de Galilée était grande et Jésus avait l'habitude maintenant de sortir et se promener sur le côté de la mer. Il sortit, ça dit. Jésus sortit de nouveau, c'est-à-dire il est allé chercher les gens. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. Quand Jésus est sorti, les gens aussi venaient à lui. Ils ont voulu voir Jésus, peut-être pour être guéris, mais Jésus est allé pour les guérir, mais aussi ça dit qu'il est allé les enseigner. Verset 14, en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de payage. Il lui dit, « Suis-moi !» Lévi se leva et il le suivit. Nous avons remarqué que Capernaum était une ville à côté de la mer de Galilée, mais c'était aussi situé sur une grande route qui lie le nord avec le sud. Un poste de payage était déjà établi par là, par les Romains. C'était Hérode Antipas qui était le gouverneur de Galilée, et voilà, il était en charge de cette région. Alors Lévi, ou Matthieu, un autre nom pour lui, il travaillait pour les Romains. Il travaillait enfin pour Hérode Antipas, apercevant les impôts. Certains publicains, pour avoir le poste, ont donné beaucoup de l'argent. Et il y avait aussi différentes sortes de publicains, ceux qui étaient chargés d'être en contrôle de tout le territoire. Il y avait aussi des sous-publicains, on peut dire, qui étaient allés chercher cet argent pour les grands publicains qui étaient là. Alors, pense un peu à ce Lévi, Matthieu, qui était assis au bureau de payage. Les publicains, les collecteurs des impôts, étaient méprisés par les Juifs. Et c'est comme une sagesse qui est toute contraire à la sagesse du monde que Jésus est allé chercher ou appeler même cet homme à le suivre. Comment est-ce que Jésus a pu chercher cet homme à le suivre? C'était quelqu'un qui donnait l'argent des Juifs aux Romains. Et c'était un homme qui était toujours en contact avec les gens impurs comme les Romains. Le gouvernement romain était oppressif. Les Juifs cherchaient à être libérés de cet gouvernement romain. Les publicains aussi étaient des gens corrompus. Ils cherchaient l'argent pour Rome. Et ils étaient des hommes injustes, des voleurs, ceux qui font l'escroquerie. Les publicains étaient même haïs dans toutes les provinces. Et nous voyons dans versets 15 et 16 une double désignation. On parle de publicains et pécheurs, c'est-à-dire au même moment qu'on parle de publicains, on les regarde comme un grand pécheur. Et on pose la question, pourquoi Jésus est allé appeler ce Lévi à être un de ses disciples? Ce que nous allons voir, que Jésus était un chercheur des pécheurs. Jésus est allé pour chercher les pécheurs et il est allé chercher Matthieu, ce publicain, celui qui était méprisé par le monde juif, mais pas méprisé par Jésus. Je crois que Jésus a su que Matthieu cherchait quelque chose de meilleur. Depuis, Dieu a travaillé dans le cœur de Matthieu concernant son métier et il a maintenant, Matthieu a su qu'il était prêt à abandonner tout pour suivre Jésus et Jésus envoyant a appelé pour suivre. Et qu'est-ce qu'on voit? Lévi se leva et le suivit. Jésus a pris l'initiative dans cette relation. Et cela a marqué une crise dans la vie de Matthieu. Contrairement à celui qui pêche des poissons, un publicain qui a abandonné sa position ne pouvait pas y revenir plus tard. Une décision de suivre Jésus, c'était une décision définitive. Et ce qui est intéressant, c'est Luc qui mentionne ce fait. Il a laissé tout. Laissant tout, c'est ce que Luc nous a dit. Dans Marc et dans Matthieu, il dit simplement, Jésus lui dit, suis-moi. Et Lévi se leva et le suivit. Mais Luc mentionne qu'il a laissé tout. Qu'est-ce que Matthieu a trouvé? Il a trouvé en Jésus une valeur au-delà de l'argent, une valeur au-delà de son métier, au-delà de même tout ce qu'il possède. Enfin, d'ailleurs, Jésus a utilisé cette même image pour ceux qui ont laissé tout pour suivre Jésus. Et c'est remarquable que dans son évangile, Matthieu, c'est vrai, Matthieu est devenu l'auteur de cet évangile selon Matthieu. Dans son évangile, Matthieu a mentionné deux paraboles que Jésus a citées aux gens. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner là. Et vous pouvez regarder cela avec moi. Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, verset 44. Là, on voit deux paraboles. Et Matthieu raconte ces paraboles. Jésus nous dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. » Voici la parabole que Jésus enseigne, que quelqu'un trouve un grand trésor et qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. La deuxième parabole, c'est ce qui suit dans verset 45 dans Matthieu 13. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il a acheté. Je crois que cette parabole a beaucoup remarqué Matthieu, parce que lui, comme ce chercheur de grand-père, il aussi, il a cherché un grand-père et il a trouvé en Jésus-Christ ce grand-père qui avait un grand prix et il a laissé tout pour suivre Jésus. Revenons dans l'évangile selon Marc et on doit simplement poser cette question. Lévi, laissant tout, se leva pour suivre Jésus. Et vous-même, es-tu prêt à suivre l'appel de Dieu? Es-tu prêt à suivre Jésus en laissant tout ce qui est là important pour vous? Est-ce qu'il y a des idoles encore qui sont dans vos cœurs que vous devez se débarrasser pour suivre Jésus? Voilà, Jésus, le chercheur des pécheurs. Nous allons voir aussi Jésus à table avec les pécheurs. Dans verset 15, nous voyons comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils l'avaient suivi. C'est intéressant quand nous voyons le passage parallèle dans l'Évangile selon Luc. Luc nous dit que Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir suivi Jésus, Matthieu a dit, mais écoute, venez dans ma maison, j'aimerais avoir une fête pour cette occasion que voilà, j'ai laissé tout pour te suivre. Et il a eu une grande fête dans sa maison et Jésus, bien sûr, est invité. Et verset 15 nous dit que Jésus était à table maintenant dans la maison de ce Lévi, de ce Matthieu. Et pas seulement Lévi était là, mais Lévi, bien sûr, il a voulu inviter ses amis. Et ses amis, c'était des publicains, les autres gens de mauvaise vie. Ça dit que beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples. Et ça dit qu'ils étaient nombreux et il avait suivi à table avec des publicains et des gens de mauvaise vie. Voilà, c'est un endroit très différent, n'est-ce pas, d'une synagogue. Une synagogue était un endroit où les gens venaient calmement pour écouter la parole, pour être avec les autres. Mais combien de fois un publicain pouvait entrer dans une synagogue? Combien de fois un gens de mauvaise vie a même pu entrer dans une synagogue? C'était pas possible pour eux. Et maintenant, Jésus au milieu d'eux, même à table avec eux. À table, c'est-à-dire manger et boire avec les hommes qui étaient là. Manger implique la communion. Boire avec quelqu'un implique la communion avec eux. Et pour un juif, la compagnie d'un pécheur, d'un gentil, de quelqu'un de mauvaise vie, ce n'était pas possible. Au moins que celle-ci ne se répande. Mais pour Christ, la communion avec un pécheur était nécessaire pour l'amener à la repentance. Il va vers ceux qui ont besoin de lui avant même qu'ils ne sachent qu'ils ont besoin de lui. Jésus est venu en ce monde pour faire quoi? Pour sauver le pécheur. Et c'est Jésus qui cherche les plus petits, les derniers, les perdus. C'est lui qui est ce bon berger qui cherche ses brebis, et même celui qui a 99 qui est juste, mais il laisse les pour chercher un qui est loin. C'est ça, Jésus, le chercheur des brebis perdues, le chercheur des pécheurs. Quand nous voyons les autres évangiles, c'est très intéressant le nombre de différents pécheurs qui ont rencontré Jésus et qui ont laissé ce qu'ils avaient pour suivre Jésus. Nous voyons une autre publicaine, Zachée, dans Luc 19. Nous voyons aussi certaines femmes, on peut dire les femmes pécheresses qui ont suivi Jésus. Dans Luc 7 encore, nous voyons une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville et ayant su qu'il était à table dans la maison d'une pharisienne, apporta une vase d'alabâtre plein de parfums. Et s'était derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui moila les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, éloignée de parfum. Et la même réaction a eu avec le pharisien, et le pharisien qui l'avait invité, il a vu cela, il dit en lui-même, mais cet homme était un prophète. S'il était un prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'était une pécheresse. Mais Jésus a accepté cette offrande que cette femme pécheresse lui a donnée. Cette femme pécheresse qui pleurait à cause de ses péchés, mais pleurait aussi de joie qu'un homme comme Jésus pouvait accepter son offrande. Voilà, cette femme a eu ses péchés pardonnés 7 jours. Une autre pécheresse notoire, la femme de Samarienne, de Samarie, cette Samaritaine. Et encore, Jésus l'a confrontée avec ses péchés et l'a amenée à voir qu'il était le Christ. C'est pas simplement une femme pécheresse, mais c'était aussi une Samaritaine. Une Samaritaine était une membre où c'était né dans un endroit où c'était des enfantes politiques, on peut dire des rebelles politiques. C'était les Métis aussi. C'était des gens qui étaient mélangés avec une race différente. Et les Juifs ont toujours méprisé les Samaritains, mais Jésus était là pour être avec elles et pour lui montrer ses erreurs doctrinales, mais aussi pour lui montrer qu'il est le Christ. D'autres exemples, nous voyons Marie Magdalene. Sept démons, à un moment donné, étaient en elle. Et Jésus a chassé les démons en elle. Nous voyons aussi les criminels. Et Jésus, même sur la croix, il a vu ce criminel qui était à côté de lui, qui a eu la foi. Il a dit à cette criminelle, cette brigande, « Tu seras avec moi au paradis. » Pas seulement cela, on peut voir aussi ce contact que Jésus a eu avec les gens comme les lépreux que Zacharie a mentionné avant, ou comme avec les gentils, le centurion romain. Et encore, Jésus était avec eux. Jésus était un chercheur de ceux qui étaient méprisés. Jésus a eu la compassion sur eux. Et la réaction que nous voyons des gens, c'était intéressant. Ils disaient, mais pourquoi mangent-ils et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Et c'est là où nous allons voir un troisième point ce matin. Et c'est simplement ceci, que Jésus est le sauveur des pécheurs. Oui, le chercheur des pécheurs, et même celui à table avec les pécheurs, mais Jésus aussi le sauveur des pécheurs. Et c'est là où, à la réponse de cette question, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, ayant entendu cela, verset 17, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des Juifs, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Pour Jésus, s'associer avec les pécheurs, c'était une moyen de les aider à se repentir et à croire en Christ. Et de même que ce sera insensé pour un médecin de ne pas associer avec les malades, ce sera insensé si Jésus ne s'associait avec les pécheurs pour les aider à voir qu'ils pouvaient trouver le pardon en lui-même. Pourquoi Jésus cherchait les pécheurs? Mais c'était dans sa nature d'aller vers les pécheurs. Même son nom, Matthieu 1, 21. Nous voyons, elle enfantera un fils et tu appelleras le nom de Jésus. Pourquoi? Car il sauvera son peuple de ses péchés. Même son nom, Jésus, va dire sauveur, sauveur des pécheurs, des pécheurs. Nous voyons sa mission. Il est venu pour chercher les pécheurs. 1 Timothée 1,15 nous dit la même chose. C'est une parole fidèle et digne de toute acceptation que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et Paul disait ça à Timothée en disant, « Et moi, je suis le chef des pécheurs. » C'était dans sa nature. Jésus est venu pour chercher, pour sauver ceux qui étaient perdus. Alors, pas pour être en communion avec eux dans leur péché, non, mais pour les appeler à voir qu'ils étaient des pécheurs. Jésus était saint, il était innocent, sans tâche, séparé même du pécheur. Mais il était au même moment en train d'aller, de les aider à voir qu'en lui se trouve le pardon. Et on peut poser une question ici. La question qui était posée, pourquoi Jésus était avec les pécheurs? Les pharisiens ont posé ces questions, mais comment il pouvait être avec eux? Mais il y a une autre question à poser. Pourquoi les pécheurs avaient envie d'être avec Jésus? Pas pourquoi Jésus était avec les pécheurs, mais pourquoi les pécheurs ont voulu, ont envie même d'être avec Jésus. Nous voyons un grand contraste. Les pharisiens étaient justes, oui, mais ils étaient orgueilleux. Mais Christ était juste, mais il était aussi humble. Les pharisiens étaient saints et pleins de mépris. Ils ne veulent pas être avec les pécheurs. Mais Jésus était saint, mais aussi il était plein de compassion. Et la différence alors, c'est son attitude envers ceux qui étaient les pécheurs. Il y avait un certain mépris venant des pharisiens, venant des scribes, un certain mépris, mais comment tu peux être avec eux? Mais le cœur de Jésus, c'était autrement. C'est une attitude de celui qui cherche, une attitude de celui qui a compassion. C'est une attitude de celui qui est ouvert à tout le monde, ouvert à ceux qui étaient là. J'aimerais qu'on regarde un passage dans Luc qui montre un autre côté de cette attitude que les gens avaient envers Jésus et aussi la façon que Jésus a voulu répondre à leur attitude. Regarde avec moi Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc 15, c'est ce chapitre fameux dans l'Évangile selon Luc concernant ce qui était les choses qui étaient perdues et comment les gens ont fait tout pour essayer de trouver ce qui était perdu. Et j'aimerais juste lire les premiers 7 versets dans Luc chapitre 15 pour nous montrer un peu ce que Jésus a voulu démontrer concernant l'attitude des gens envers ce qui était perdu. Luc 15, verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Voilà, ils avaient envie de l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disaient, « Mais cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et voilà, face à cette attitude, Jésus leur dit cette parabole. Verset 3. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perdu une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec la joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous voyez, les leaders religieux ont raté le cible complètement concernant leur attitude envers les pécheurs. Ils ont complètement échappé dans leur pensée leur devoir d'aller vers même les pécheurs. Les leaders religieux, les pharisiens, avaient un problème spirituel qui était là au fond. Et je me demande si nous avons aussi ce même problème d'attitude. Voilà, ils n'ont pas voulu accepter les pécheurs. Ils n'ont pas vu les pécheurs comme Jésus les a vus. Et ils n'ont pas voulu même prendre un seul pas vers les pécheurs. Mais Jésus nous montre à travers ce parabole et le deuxième parabole qui suit de cette femme qui a cherché tout pour trouver la pièce de monnaie et enfin tout ce parabole concernant le fils prodige pour dire que Jésus est là, prêt à chercher et accueillir les pécheurs. Je me demande ce matin et je pose encore la question, quelle attitude est-ce que nous avons envers les pécheurs? Dans le texte, nous voyons tout le monde en train de réjouir de ce fait qu'un pécheur est rentré. Cet homme qui a trouvé ce brebis, il se réjouit et il vient. Et on voit cette phrase que dans le ciel même, il y a cette réjouissance qui se passe à cause de ce pécheur qui est venu. Nous voyons la joie des gens. Et nous voyons un contraste même à la fin. Si vous pouvez regarder même cet après-midi, cette histoire du fils prodige, souvent nous voyons cette réaction du père, mais toute la parabole termine avec la réaction de son frère. Et c'est ça même le but de toute cette histoire du fils prodige. Quelle était la réaction du frère? Il était fâché. Il disait, « Mais comment mon père ?» a fait tout cela. Comment il peut faire une grande fête pour mon frère qui est allé gaspiller cet argent avec les prostituées et les autres choses, et mon père l'a accueilli. Et il était si fâché, il a laissé cet endroit et il a dû laisser son père venir vers lui. C'était une chose incroyable parce qu'à cette époque, un père ne vient pas vers un enfant, mais un enfant venait au père. Mais le père même est allé vers cet homme et lui dire que, écoute, tout ce que j'ai possédé, c'est à toi, mais tu aurais être là à la fête. Et tout cela pour indiquer que ce frère n'a pas eu la bonne réaction qu'il fallait, une réaction de joie que son frère est rentré. Et on pose la question, mais pourquoi nous n'avons pas cette même compassion, cette même idée d'une valeur d'un être humain? Pourquoi on n'a pas cette ouverture d'esprit même envers les pécheurs? Souvent, n'est-ce pas, nous regardons quelqu'un pour la première fois et nous arrivons à une conclusion dans 5 secondes et nous disons, voilà, il est comme ceci ou il est comme cela. Il y avait des recherches qui ont déjà fait concernant notre attitude envers les gens. Et vous savez, dans les premières 5 secondes que vous voyez quelqu'un, déjà, vous avez arrivé à une conclusion concernant cette personne. Et peut-être vous voyez un tatouage dans le visage ou vous voyez quelque chose d'un peu étrange, et déjà tu arrives à une conclusion concernant cette personne. Vous le voyez à l'extérieur et tu arrives à une conclusion. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Nous devons avoir une certaine ouverture d'esprit, une certaine attitude qui dise, voilà, il y a un être humain devant moi qui a besoin de connaître Jésus-Christ. Et si votre réaction immédiate, c'est de repulser quelqu'un, de repulser, d'avoir un dégoût, une répugnance, de vouloir ne pas être là, alors d'une manière, vous êtes en train de réagir vers le péché. Et ce qui est bien, on ne veut pas avoir une communion avec le péché. Mais au même moment, nous voulons avoir un esprit qui est ouvert, qui voit cette personne comme Dieu le voit. Et c'est ça ce que nous devons avoir aussi. Et ce que nous pouvons faire, juste pour clôturer, quelques idées pour nous aider à avoir ce même cœur que Jésus a eu, c'est d'arrêter cette attribution négative. C'est de ne pas arriver à une conclusion trop vite concernant les gens. Suspendre le jugement, c'est-à-dire tous nos jugements ne sont pas erronés, mais beaucoup de fois, ils sont erronés. Et d'arriver en conclusion tout de suite concernant les gens qui sont devant vous, ce n'est pas bien. Suspendez le jugement sur quelqu'un et juste prier pour lui et juste avoir un esprit ouvert que voilà devant toi, c'est peut-être quelqu'un même en train de chercher la vérité. Alors, au lieu d'une attribution négative, vous pouvez faire une attribution positive. Alors, comme nous faisons avec nos amis, n'est-ce pas? Vous avez une amie, peut-être vous avez entendu quelque chose qui n'était pas bien par rapport à lui, mais tout de suite, tu ne penses pas les choses négatives. Tu penses, oh non, 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 ça ne peut pas être là, ça devrait être ceci, ça devrait être là. Une attribution positive. Et nous devons faire ça envers les gens. Et nous devons avoir un cœur même d'être hospitalier, d'être quelqu'un qui est prêt à aider et à encourager et à diriger les autres vers la source de vie qu'ils pouvaient avoir. Dans Hébreux chapitre 13, verset 2, nous voyons un autre verset. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Voilà une bonne chose que vous pouvez faire à quelqu'un qui n'attendait pas et vous ne savez pas, peut-être c'est quelqu'un que Dieu a envoyé pour toi. Peut-être pas un ange comme un ange du ciel, mais quelqu'un que Dieu l'a envoyé envers vous. Chaque jour, nous rencontrons les gens. Chaque jour, nous avons une opportunité de montrer Christ à eux à travers nos vies, à travers un sourire, à travers un bon geste, à travers une donne, à travers une remarque, que d'encouragement. Quand vous êtes au supérieur et voilà, il y a une madame qui est en train de chaque jour et elle voit tous les clients sont fâchés, mais tu viens et tu dis, mais bonjour, comment ça va aujourd'hui? Et elle te regarde et elle va dire, mais c'est comment? Et ce sera curieux pour elle de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à elle dans sa situation ou il dans sa situation. Voilà, nous ne devons pas avoir cette attribution négative, mais une attribution positive, d'être hospitalier, d'être gentil envers les gens et être à leur écoute. Écoutez les gens. Écoutez, ne soyez pas trop prêts à toujours parler. Jacques nous dit, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à entendre, lent à parler, lent à la colère. Prompt à parler, pardon, prompt à entendre, lent à parler. C'est quelqu'un qui est toujours fier de lui-même, qui est toujours en train de parler. Mais celui qui est lent à parler est humble. Il voulait écouter. Et il a, si vous écoutez, vraiment écouter les autres. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et les pécheurs sont là. Ils ont besoin de ce grand médecin. Les justes n'ont pas besoin de médecin, mais les pécheurs, ils ont besoin de quelqu'un de les diriger vers Jésus-Christ. Pour clôturer, c'est juste pour encourager ceux qui peut-être sont parmi les pécheurs qui ne pensent pas que Jésus pouvait les accepter. Écoute ce verset que Jésus a dit, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. » Je ne le rejetterai pas. C'est ça l'attitude. Si tu viens à Jésus, Jésus a appelé Lévi, ce pécheur, et Lévi a laissé tout pour suivre Jésus. Et il t'appelle aussi aujourd'hui, il t'appelle à laisser tout, laisser les idoles dans votre vie, laisser la position que vous avez et reconnaissez que Jésus-Christ, vous avez ce père de grand prix, celui qui est ce trésor, ça vaut la peine de laisser tout pour le suivre. Jésus-Christ est là, il ne va pas. Il ne peut pas rejeter tout ce qui vient à lui. Et pour nous qui sommes des croyantes, voilà, que le Seigneur nous donne cette compassion, ce cœur de Jésus, ce cœur qui cherche même les pécheurs et qui cherche ce pécheur avec joie quand on les trouve. Et qu'on sache que c'est Dieu même qui a cette joie quand les pécheurs reviendront à lui.
De proposer. Donc déjà,